La parole prophétique n'est pas négligeable, mais la valeur de la sainteté, c'est de l'or. Nous avons reçu une parole prophétique la semaine passée. Cette parole, elle n'est pas de moi. Je la reprends de ce qu'on a entendu la semaine passée. Toute la prédication de la semaine passée était parole prophétique. Et parfois, c'est vrai qu'on aspire à recevoir des paroles prophétiques tous les dimanches. On attend à être visité par le Saint-Esprit tous les dimanches. On aimerait vivre quelque chose, on aimerait être bouleversé, on aimerait que le Saint-Esprit nous rejoigne, qu'il se passe quelque chose, des signes, des prodiges. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais souvenons-nous qu'une parole prophétique, elle a plusieurs fonctions. Paul, en 1 Corinthiens 14, 3, il dit que la prophétie, elle sert à édifier, à exhorter et à consoler. Pas seulement consoler. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Quand on aspire à ce que le Saint-Esprit agisse, on aspire à ce qu'il vienne nous toucher, qu'il nous fasse du bien, qu'il vienne nous restaurer, qu'il se passe quelque chose en nous-mêmes. Et ce n'est pas faux, et c'est ce qu'il vient faire, puisque la parole prophétique qui vient de l'Esprit, elle nous console. C'est juste. Il faut aspirer à ces choses, mais pas seulement à ces choses. La parole prophétique, elle vient aussi pour édifier, nous bâtir, nous construire en tant que disciples de Christ. La parole prophétique, elle vient nous exhorter, c'est-à-dire qu'elle vient nous encourager, elle vient nous titiller, elle vient nous pousser pour qu'on fasse ce que Jésus nous dit de faire ou qu'on arrête de faire ce que Jésus ne nous demande pas de faire. Dimanche passé, nous avons reçu une parole prophétique, une parole qui n'est pas négligeable. Mais la valeur de la sainteté, c'est de l'or. Et cette sainteté, elle signifie faire de Jésus notre numéro un. Vous vous souvenez? N'ayez pas peur, je ne vais pas reprendre mot pour mot la prédication de dimanche passé. Mais je crois qu'on est tellement dans cette saison-là. Et ce qu'on reçoit ce matin, ça montre qu'on est dans cette saison. Il y a quelque chose au niveau de la sainteté qui mijote depuis un moment. Et maintenant, il faut que tous nous puissions nous approprier ces choses-là pour pouvoir entrer dedans. Alors, il semblerait que cet or, l'or de la sainteté, nous le possédons. Tout ce qu'on a entendu dimanche passé, mais ce qu'on a entendu aussi plusieurs semaines avant, cet or, il est là. Plusieurs visiteurs sont venus, ils ne nous connaissaient pas, ils nous ont encouragés. Ils disaient, mais ici, il y a la présence de Dieu. Mais c'est quoi la présence de Dieu? Eh bien, ces gens, ils ont touché à la sainteté de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Dieu est saint. Dieu est trois fois saint. Le Père est saint, le Fils est saint, le Saint-Esprit est saint. Dieu est trois fois saint. Dieu est saint. Dieu est sainteté. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? C'est une séparation. C'est une mise à part. Dieu est séparé des hommes. Les hommes sont créatures. Dieu est créateur. Dieu est séparé de sa création. Il est externe à la création. C'est lui qui l'a faite. Mais il existait déjà avant. En Dieu, tout est pureté. Il est séparé de toute impureté. Il est séparé de tout mal. Saint, c'est-à-dire mis à part dans le sens de séparé de tout ce qui est profane, séparé des hommes, séparé des faux dieux, séparé de tout ce qui n'est pas Dieu. Et c'est pour ça que certains l'appellent le tout autre. Parfois, ça me fait un peu peur cette appellation, parce que j'ai peur qu'on entre dans des trucs un peu ésotériques. Il n'est pas question de ça. Ayez du discernement qui dit quoi, d'où viennent les paroles. Mais des personnes disent « il est le tout autre » dans le sens où Il est tellement séparé de notre déchéance humaine. Il est lumière et il est sainteté. Alors quand on sent la présence de Dieu ici, c'est que quelque part on a touché à la sainteté. On a touché à quelque chose qui est différent de nous-mêmes, de notre quotidien, parce qu'on a touché à cette sainteté de Dieu. Et c'est aussi à ça qu'on aspire, même si on n'a pas toujours les mots, même si on ne se rend pas compte que c'est ça, mais on en a besoin. On a besoin d'être sanctifié, d'aller de sainteté en sainteté. Alors être disciple de Jésus, ce n'est pas la même chose qu'être chrétien. Être chrétien, je ne sais même pas exactement ce que ça veut dire. Il faut dire que ce n'est pas les chrétiens eux-mêmes qui ont décidé de s'appeler comme ça. C'est un sobriquet qui voulait dire les petits Christ. Être disciple de Christ, c'est autre chose. Quand tu as reçu Christ, Christ devient ton maître, ton Seigneur, pas seulement ton Sauveur. Alors demander dans la prière une conviction de sainteté, c'est une des meilleures choses qu'on puisse faire. Parce que si Dieu me donne une conviction de sainteté, il va me donner une conviction que lui est saint. Et je vais mieux comprendre. Et si j'ai cette conviction de sainteté que je ne peux pas avoir par mon propre entendement, ça va nourrir mon adoration. Et ça va nourrir toute ma vie. Voilà, je suis à l'introduction, je ne suis encore pas entrée dans le vif du sujet. On va aller dans la parole. Il y a 2 semaines, on était dans Matthieu. Dans Matthieu 4, début du ministère de Jésus, Jésus a appelé ses premiers disciples. Il a appelé des pêcheurs de poissons, puis il leur a dit « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Vous vous souvenez, ça veut dire « Vous allez jeter vos filets, ils seront remplis d'hommes, de femmes, d'enfants qui se noient, et vous allez les retirer pour les amener sur la berge, à l'air libre, dans l'oxygène, dans la lumière ». Et après ça, après ce passage, on n'en a pas parlé il y a 2 semaines, mais Jésus, il commence à parcourir toute la Galilée. Et là, il prêche, mais il guérit. Il fait des prodiges, il y a plein de guérisons, des libérations, et tout le monde afflue parce que tout le monde veut être guéri. Alors Jésus, il s'empresse de monter sur une montagne et il prend ses disciples avec lui. Nous sommes dans Matthieu 5. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés ou ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les doux, car ils hériteront la terre. » Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils, filles de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Jésus l'a dit à ses disciples, Et il vous le dit, il vous le rappelle encore aujourd'hui. Il nous le dit. Je me mets dans l'ensemble. Dans le monde antique du temps de Jésus, le sel, il était connu pour avoir trois fonctions. Donner du goût, de la saveur, conserver et purifier. Et un fait intéressant, il est question du sel dans la loi de Moïse, dans Lévitique. Lévitique 2, verset 13. « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Intéressant. Apparemment, il y a un lien entre le sel, la saveur, le fait de purifier, de conserver et l'alliance de Dieu, et la louange et l'adoration à Dieu. Vous êtes le sel de la terre. Je ne vais pas aller plus loin dans ce sujet, mais c'est juste des bribes pour donner envie d'aller réfléchir à ce que ça veut dire. La lumière. La lumière, elle a une fonction. Elle éclaire. Je ne vous apprends rien. L'obscurité et les ténèbres n'ont aucune prise sur la lumière. Mais la lumière chasse les ténèbres. La lumière, elle éclaire autant dans le matériel que dans le non-matériel, au propre et au figuré. Dans le monde visible, dans le monde physique, si je suis sur un chemin dans la nuit, je risque de ne pas voir un trou et de tomber, je risque de ne pas voir une pierre et me cogner, je risque de ne pas voir que le chemin se sépare en deux et prendre une fausse route, peut-être qu'il y a un ravin, je vais tomber. Mais s'il y a de la lumière qui éclaire ma route, je vois mon chemin, je vois les obstacles. La lumière, elle éclaire l'intelligence. Quand je reçois des explications, tout s'éclaire. La lumière, elle est indispensable à la vie. Pas de végétation sans lumière. La lumière, c'est bon pour le moral. La lumière, ça permet le discernement. La lumière, c'est l'absence d'obscurité. Et fait intéressant, dès la Genèse, les auteurs bibliques indiquent que la lumière est inséparablement liée à la présence et l'action puissante de Dieu. La lumière est inséparablement liée à la présence et l'action puissante de Dieu. Dès la Genèse, dès le premier chapitre de la Genèse, verset 3, la lumière est là avant la création du soleil, de la lune et des étoiles. Et dans Jean, ça va encore plus loin. Jean 1. À partir du verset 6, c'est Jean qui parle. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, Jean-Baptiste, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Dans Jean 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mes amis, ce n'est pas rien la lumière. Dieu est sainteté. Dieu est lumière. Alors, vous êtes la lumière du monde, signifie obligatoirement que pour être disciple, vous devez être habité de Jésus. Vous êtes obligé d'être habité de la présence de Dieu pour pouvoir rayonner. Vous ne pouvez pas rayonner par vous-même, c'est impossible. Vous êtes la lumière du monde parce que Jésus est en vous. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Pourquoi ? parce qu'elle brille. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre l'avion, et de prendre l'avion de nuit. Et ça dépend quelle région vous allez survoler. Mais si vous survolez une grande ville, Paris, Zurich, ou vous allez du côté des États-Unis, là, vous allez repérer les villes. Peut-être même que des fois, vous ne savez plus quand elles commencent puis quand elles finissent. C'est parce que ce sont des grandes villes et il y a tellement de lumière. Mais si vous allez un petit peu de l'autre côté, puis vous commencez à survoler des déserts, vous ne verrez rien. Et tout à coup, vous allez voir un lumignon quelque part, puis vous allez vous dire, tiens, là-bas en bas, il y a un feu. Peut-être qu'il y a un petit rassemblement autour de ce feu. Et plus vous avancez, des fois vous voyez un petit peu plus de feu. Vous dites, ah, putain, ça c'est peut-être un village. Et tout à coup, vous arrivez à Madagascar, parce qu'en général, quand on prend l'avion, c'est pour aller à Madagascar, mais là je ferme la parenthèse. Vous arrivez à Madagascar et vous voyez plus de lumière. Vous dites, ça c'est Tana, on va arriver, on amorce la descente et on va atterrir. La lumière, elle brille, elle ne fait pas de bruit. Quand vous êtes dans votre avion, il y a des villes, ça peut être des grandes villes comme Chicago, ça peut être une ville plus modeste au niveau de ses lumières, comme Tana, qui est une ville beaucoup moins riche. Elle est riche autrement, vraiment autrement. Mais au niveau des lumières, il y en aura peut-être moins. Mais ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le bruit de la ville qui va monter jusqu'à l'avion. Vous n'entendez pas le bruit, mais vous voyez la lumière. Et peut-être que vous n'avez jamais pris l'avion ou pas de nuit, mais peut-être que vous êtes déjà venu de nuit depuis la Ferrière jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Et quand vous arrivez au grand rond-point qui va mener vers la gare de la Cibourg, là vous ne voyez pas la Chaux-de-Fonds, parce qu'il y a une petite colline. Mais vous savez qu'il y a la Chaux-de-Fonds, parce que ça brille, parce que vous voyez qu'il y a de la lumière qui se dégage. Mais ça ne fait pas de bruit. Vous n'entendez pas les bruits de la ville. La lumière, elle n'est pas en train de dire « Regardez, je brille !» Elle brille. Ce qui est intéressant quand Jésus il parle de cette ville sur la montagne, c'est qu'il met en premier lieu la communauté. Une ville, ce n'est pas un individu. Il met ça en premier. Et ça doit nous parler. Mais l'individu n'est pas en reste. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'individu est comme une lampe. Et la lampe, on ne la met pas sous le boisseau. Le boisseau, ça ressemble à un seau. En fait, c'est une unité de mesure. C'est une unité de mesure pour les solides, pour le grain, pour la farine, etc. Pour qu'il n'y ait pas des fuites, il faut qu'il soit le plus hermétique possible. C'est un grand récipient. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les lampes du temps de Jésus, c'est pas des néons, c'est pas des ampoules, c'est pas de l'électricité, c'est pas des LED. C'est des lampes à huile. Il peut y avoir aussi des torches, mais il y a une flamme. Alors si tu mets le boisseau sur la lampe, tu vas cacher la lumière, bien sûr, mais tu vas l'étouffer et tu vas la faire mourir. Donc là, Jésus il est en train de dire, mais c'est complètement incohérent d'avoir une lampe et puis de mettre un boisseau dessus. Et de la même manière, il dit, mais si le sel perd sa saveur, eh bien, sans avoir fait des études de chimie, c'est difficile de comprendre, mais comment le sel peut-il perdre sa saveur? Et pourtant, la lumière peut être étouffée. Et pourtant, le sel peut perdre sa saveur. Briller, c'est faire de Jésus notre numéro un. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là, quand il dit « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre ». Eh bien, pour comprendre une parole, pour pouvoir l'interpréter, pour essayer de comprendre son message, c'est toujours indispensable de regarder le contexte. Regardez où elle est placée, cette parole. Regardez ce qui vient avant. Avant que Jésus dise « Vous êtes le sel de la terre », il a dit « Heureux ». Tout ce passage qu'on appelle les béatitudes. On est au tout début du sermon sur la montagne. Je ne veux pas vous faire une prédication spécifique sermon sur la montagne. Mais on est dans ce contexte-là. On est dans le contexte où Dieu, où Jésus parle à ses disciples, ceux qui vont se réclamer de lui, ceux qui vont le suivre, ceux qui vont lui appartenir. Et Jésus est en train de lui donner les exigences du disciple. Et il est en train de dire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus soit mon numéro un? Qu'est-ce que ça veut dire briller? Qu'est-ce que ça veut dire avoir de la saveur? Ça veut dire, comme on nous l'a dit la semaine passée, heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui sont conscients de leur sécheresse, qui sont comme une terre aride, desséchée, sans eau, parce qu'ils vont venir puiser vers moi. Et ce qui est intéressant, juste là, il dit « car le royaume des cieux est à eux ». Et c'est la deuxième fois qu'il parle de ce royaume des cieux. La première fois, c'est juste avant, c'est le verset 17 du chapitre 4. Dès que Jésus commence son ministère, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Et là, il reprend cette parole du royaume des cieux. C'est comme s'il y a déjà un lien avec la repentance. Prendre conscience que Jésus n'est pas mon numéro un. Et me repentir. Seigneur, mais crée en moi cette saine repentance, que je comprenne ce que c'est quand tu n'es pas mon numéro un, pour que tu puisses me transformer et devenir mon numéro un dans tous les domaines de ma vie. Perdre sa saveur, c'est quand je pense que j'ai tout compris. C'est quand je pense que je suis assez qualifiée spirituellement. C'est quand je pense que j'ai des dons et que je peux servir. C'est une question de mentalité, de compréhension. Heureux les affligés, ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Vous allez voir, je mets surtout l'emphase sur les personnes et les comportements, les récompenses. Je vous laisserai aussi aller les reprendre, les lire à domicile et les méditer. Mais heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés, les affligés. Tu peux pleurer sur toi-même, tu peux pleurer sur ta vie, mais tu peux pleurer en étant heureux parce que tu sais que tu auras ta consolation, parce que tu sais que la solution à ce que tu vis, ce n'est pas forcément dans le monde présent. Peut-être oui, mais c'est surtout pleinement Jésus-Christ et ça vient. Mais il y a aussi ceux qui pleurent sur les autres. Il y a ceux qui pleurent pour les âmes qui se perdent. Il y a ceux qui pleurent quand ils voient tous les conflits qui se passent dans notre monde. Il y a ceux qui pleurent et qui sont affligés quand ils voient qu'il y a des tremblements de terre et qu'il n'y a pas de moyens pour aller sauver ces personnes. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui sont affligés par ce qu'ils constatent, parce qu'ils seront consolés. Quand tu perds ta saveur, c'est que tu n'es même plus touché par le malheur qui t'entoure. Heureux les débonnaires, les doux, les humbles, car ils hériteront la terre. Être doux, avoir un cœur de chair et non un cœur de pierre. Être humble. Pas de place pour l'orgueil. Waouh. Anne nous a dit la semaine passée que l'orgueil, c'est un des premiers obstacles au réveil. En fait, c'est un des premiers obstacles à Jésus. Dieu résiste aux orgueilleux. On peut se poser la question quand il y a des choses qui n'avancent pas dans notre vie, mais j'en suis où par rapport à ça? Elle a parlé aussi de jalousie, de compétition, rivalité. On ne va pas faire la liste parce que on aura le moral sous les pieds. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il ne s'agit pas de chercher à ce qu'on nous fasse justice. Là, on risque de perdre notre saveur. On risque d'avoir un boisseau pas loin. Si je fais ma propre justice, là, ma lumière est en train d'être étouffée. Mais il faut bien comprendre, la justice de Dieu, elle a deux grands pans importants. La justice de Dieu, c'est le sacrifice de Christ. Nous sommes justifiés à cause de Christ, à cause de son sacrifice. C'est lui qui nous déclare justes, mais nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, être justes. La justice de Dieu, c'est déjà tout ce qui concerne le salut. Et un autre pan de la justice de Dieu, c'est le fait de s'occuper du plus faible, du plus fragile, du plus vulnérable, des pauvres. On ne se rend pas compte du nombre de versets qui parlent du fait de prendre soin des plus vulnérables. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, toute la parole est parcourue du soin que Dieu donne aux plus pauvres. Avoir soif et faim de justice, c'est aussi s'occuper des plus vulnérables. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans certaines Bibles, il y a marqué, les versions plus récentes, il y a marqué heureux ceux qui sont bons. Mais ce terme, il traduit pas assez le mot qui est utilisé. C'est vraiment la miséricorde, il y a une notion de bonté, mais avec la pitié, avec le fait de venir en aide. La miséricorde, c'est la pitié et la bonté, c'est quand tu pardonnes. Parce que toi, tu as été pardonné. Tu avais une tellement grande dette et elle t'a été pardonnée. Tu es miséricordieux quand toi, tu pardonnes à ton tour. Vous savez, dans Matthieu 18, il y a une parabole, Matthieu 18, 23, 35. C'est une parabole que Jésus donne quand il y a un maître qui attend d'un serviteur qui vienne lui rembourser ses dettes. C'est un serviteur qui a une énorme dette. Et ce serviteur, il est complètement dépassé, il ne peut rien faire, il ne peut pas payer. Il se jette aux genoux de son maître, puis il lui dit, mais aie pitié, laisse-moi du temps, fais quelque chose, moi je ne peux pas. Prends pitié de moi. Et le maître, il est rempli de miséricorde. Il dit, ok, j'efface ta dette. Rentre chez toi, tu es libre. Et sur le chemin, le gars, il n'est pas arrivé à la maison. Il est à peine reparti. Qu'il rencontre un de ses compagnons qui lui doit une petite somme comme ça. Il le saisit par la gorge et lui dit, rends-moi ce que tu me dois. Quand on ne fait pas miséricorde, on est comme ce méchant serviteur. Quand on ne pardonne pas, on est comme ça. Et Paul, en 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit qu'il pardonne pour ne pas laisser à Satan l'avantage. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Tu brilles quand ton cœur est entier. Tu brilles quand tu n'as pas d'arrière-pensée. Tu brilles quand tu ne manipules pas, quand tu n'es pas dans la séduction. Tu brilles quand tu marches dans la vérité. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Tu brilles quand tu amènes la paix partout où tu vas. Ça veut dire que tu sais mettre un frein à ta langue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de messe basse. Ça veut dire que tu ne cherches pas ton intérêt, mais celui de la communauté. C'est tellement vite fait de perdre sa saveur. C'est tellement vite fait de se faire recouvrir par le boisseau. Dans Luc 12, 3, Jésus a mis ses disciples en garde par rapport aux messes basses, par rapport à ce qui se dit dans le secret. Il a dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Dieu n'est pas sourd. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous. Celui qui brille pour la justice, c'est celui qui vient s'occuper des plus faibles. C'est celui qui n'a pas honte de l'évangile. C'est celui qui n'essaye pas d'amasser pour soi, mais qui distribue et qui partage. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et ces persécutions, c'est les outrages, c'est dire faussement du mal de vous, ce sont les calomnies. Vous savez, il y a un chrétien sur sept qui est persécuté sur notre planète. Un sur sept. On ne se rend pas compte. Mais on doit être capable de gérer la persécution. Et vous savez, celle qui fait le plus mal, c'est celle qui se passe dans la famille de Dieu. Parce que des fois, entre frères et sœurs, on se persécute. Et on doit être attentif à ça. Mais il faut comprendre, quand tu te lèves pour le service pour le Seigneur, de toute façon, il y aura de la bataille. De toute façon, tu seras persécuté, ça fait partie. Le défi pour continuer à briller et garder de la saveur, c'est de savoir, mais comment je gère cette persécution? Et tu la gères avec le Seigneur. Justement, tu ne fais pas ta propre justice. Justement, tu ne t'imposes pas. Tu pardonnes. Tu essaies de te retirer. Tu mets ton frein à ta langue. Tu essaies de te dire, j'ai été tellement pardonné que le Seigneur vienne en aide à cette personne. Parce que cette personne qui me fait du mal, elle aura des comptes à rendre devant Dieu. Alors moi, je tremble pour sa vie. Mais moi, je garde mon cœur plus que toute autre chose. Il y a un déclic à avoir dans le cœur. La persécution, elle fait partie de la vie de disciple. Un vrai disciple sans persécution, ça pose question. Et la persécution, elle peut venir de toutes sortes de manières. Elle peut venir au travers de personnes, au travers des bouches, entre autres. Mais elle peut aussi venir des attaques dans la santé. Elle peut venir par des accidents, elle peut venir par plein de choses, plein de facteurs. Mais il faut savoir que ça fait partie. Et c'est pour ça qu'il faut, comme on nous l'a dit la semaine passée, mettre une muraille de feu autour de nous. Demander la protection du Seigneur. Se placer sous le sang de Jésus chaque jour, à chaque instant. Et toujours garder son cœur. Et toujours voir la délivrance du Seigneur plutôt que de voir la quantité d'ennemis. Parce que ceux qui sont avec nous et pour nous sont plus nombreux que nos ennemis. Et celui qui est avec nous est plus fort. Quelle liste, mes amis. Ça va, vous brillez?
Non.
Qu'est-ce qu'on fait? On lève la main ou... C'est presque décourageant. Je me disais quand je préparais ça, mais en fait, c'est souvent ce que je dis au Seigneur, mais t'es sûr, Seigneur? Non, mais je vais de nouveau être le rabat-joie. Et puis après, je me dis, mais en fait, c'est ta parole. Je ne vais pas édulcorer. Et si vous lisez les pages suivantes, parce que ça, c'est le début du sermon sur la montagne, c'est le début des exigences du disciple, et bien après, Jésus donne des précisions. Et puis, il n'y a pas que les trois versets du sermon sur la montagne, les trois chapitres du sermon sur la montagne, mais toute la parole met les exigences du disciple tellement hautes qu'on pourrait être désespéré en se disant, mais j'y arrive pas. Mais bien sûr que non, tu n'y arrives pas. C'est normal. Souvenez-vous. Souvenez-vous quand le jeune homme riche voulait suivre Jésus, puis Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, puis tu viens. Et puis le jeune homme riche qui part tout triste parce qu'il a de grandes richesses. Et Jésus dit, il est plus difficile. Non, c'est pas vrai, il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Puis les disciples, ils disent, mais qui peut être sauvé? Et Jésus, il les regarde. Qui dit, mais aux hommes, mais à vous, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Fais de Jésus ton numéro un, parce que dans toutes tes difficultés, il va commencer à te transformer. Et petit à petit, ces choses-là vont devenir possibles. Petit à petit, ta lumière va briller davantage. Ton sel aura toujours plus de saveur. Et tu vas tellement briller que ça va se voir. Ça ne va pas forcément s'entendre. La lumière ne fait pas de bruit. Mais ça va se voir. Jésus a dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient... » Pas vous. « Et qu'ils glorifient... » Votre Père qui est dans les cieux. La vie de disciple, c'est abandonner notre propre vie, abandonner notre personne, abandonner notre ego. Laissez Jésus être notre numéro un. N'ayez pas peur, il ne va pas vous faire de mal. Il va respecter votre personnalité. Il va respecter les dons qu'il vous a donnés. Vous allez même vous épanouir. N'ayez pas peur de perdre votre vie pour Jésus. Mais quand il est numéro un, ça demande du sacrifice. Ça demande de l'obéissance. Mais vous serez élargi. L'espace de votre tente va s'élargir. Vos limites vont se répandre. Et une fois, c'est vos voisins. Tout à coup, un jour, c'est votre voisin qui vient frapper à la porte. Puis dit, je ne sais pas pourquoi je viens frapper, mais je crois que tu peux m'aider. Et simplement, une parole de réconfort, une prière, quelque chose. Je crois que si cette église qui est sur une montagne se met à briller, et je pense que déjà elle brille, mais je pense que si cette lumière, elle commence à prendre de l'ampleur, il y a des gens de l'extérieur qui vont arriver ici parce qu'ils ont vu de la lumière. Ce ne sera pas une question de bruit. C'est aussi ça l'évangélisation. L'évangélisation, bien sûr, ça passe par la parole. Mais pas seulement. Ça passe d'abord par la lumière qui brille. Ça passe d'abord par le sel qui donne sa saveur. Et à cause de cette lumière, les gens voient de la lumière, ils viennent, et c'est à ce moment-là qu'on peut donner de la parole et dire, ben, tu vois cette lumière que tu as sentie, ce sel, cette saveur que tu ressens. Eh bien, c'est mon Seigneur. C'est le Seigneur qui est en train de toucher ton cœur. C'est la présence de son esprit qui est en train de dire à ton esprit, mais viens, il y a une place pour toi dans la maison du Père. Briller, ça touche à la sainteté. Et la valeur de la sainteté, c'est de l'or. Quand on touche à la sainteté, on touche à Dieu lui-même. Dieu est lumière. Et quand on brille, c'est qu'on est rempli du caractère de Dieu. Mes amis, est-ce que vous aimeriez relever ce défi et être une lumière pour votre famille, une lumière pour votre quartier, une lumière pour votre ville, une lumière pour votre lieu de travail, une lumière pour vos loisirs, une lumière là où vous évoluez dans vos journées, dans votre quotidien. Faites de Jésus votre numéro un et replongez-vous un peu dans ces trois chapitres, 5 et 6 de Matthieu, 5, 6, 7, pardon. Plongez-vous là-dedans. Demandez au Seigneur des révélations. Sans les révélations du Saint-Esprit, vous n'y arriverez pas. Mais Dieu est en train de vous dire, de toute façon, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ça, c'est mes exigences. Donc si ce sont mes exigences et que je sais que sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est parce que vous n'êtes pas orphelin et que je suis avec vous. Alors prenez ça ce matin. Dites-vous, mais en fait, Seigneur, tu es en train de me dire que c'est toi qui vas faire toute cette partie que je ne peux pas. Tout ce que je suis incapable de faire moi-même, c'est toi qui vas le faire. Alors montre-moi, ok, j'entre dans une saison nouvelle et maintenant jour après jour je vais te demander ton aide. Et Saint-Esprit, je vais te demander tes révélations chaque jour. Illumine les yeux de mon cœur, donne-moi des révélations, comment je dois comprendre cette situation. Anne, elle nous disait, mais écrivez vos rêves, ayez une bonne mémoire de votre avenir, c'est-à-dire, mais... Comprenez, quand vous avez un rêve un peu particulier, écrivez-le avant qu'il disparaisse et demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre pour ma propre vie? Vous voyez des choses tout à coup qui vous interpellent, Saint-Esprit. Est-ce que c'est quelque chose que je dois comprendre pour moi? Tout à coup, quelqu'un vous dit une parole, biblique ou non, puis ça vous touche le cœur, Saint-Esprit. Comment j'interprète? Quelqu'un vient vous faire du rentre-dedans? Saint-Esprit, donne-moi la maîtrise de moi. Comment mettre un frein à ma langue? Où est la sagesse dans cette situation? Et soyez conscient, tout seul vous n'y arrivez pas, c'est normal. Vous pouvez dégager de toute culpabilité. On n'est plus là-dedans. Seigneur, je suis d'accord de dépendre de toi. Je suis d'accord que par mes propres forces, je n'y arrive pas. Mais toi, remplis-moi, remplis mon esprit, remplis mon cœur. Étends mes limites, bénis-moi, soutiens-moi, protège-moi pour que je te glorifie et que d'autres soient sauvés, que je puisse ramener mes filets sur la berge. Parce que si tu m'as sauvé, ce n'est pas juste pour que je sois bien, c'est pour que je participe à en sauver d'autres. C'est ça être disciple, mes amis. La valeur de la sainteté, c'est de l'or. Nous avons cet or ici. Nous sommes en chemin, nous sommes en route. Nous y sommes vraiment. Et j'aimerais que ce matin, on soit encouragés, puisqu'on a tous entendu le même message, d'avancer ensemble, de sainteté en sainteté, et de faire attention à tout ce qui pourrait être orgueil. Mais simplement qu'on comprenne que le Seigneur est en train de nous mener quelque part, et on va essayer de discerner où est-ce qu'il nous mène, et comment est-ce qu'il va nous utiliser. Je pense qu'il y a un réveil qui se prépare, effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose, mais comme l'a dit Anne, il y a plusieurs sortes de réveils. Et des fois, quand on pense au réveil, on imagine marcher dans la rue, puis que les gens arrivent, ils se mettent à genoux, ils se repentent sur leurs péchés avant qu'on ait dit un mot, etc. On imagine tout à coup 100 personnes qui arrivent au culte le dimanche matin. Peut-être que ce sera ça. Mais peut-être que ça va commencer autrement. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on doit comprendre. Moi, quand je suis en train de parler avec les uns et les autres, je me rends compte qu'il y a des choses qui vont devoir être dites, qui vont devoir être enseignées, pour qu'on puisse savoir sur quel fondement on va aller dans ce réveil. Parce que je crois qu'on a un héritage, mes amis, on a un héritage historique où je me rends compte que la plupart ici ne sont même pas au courant. Et moi, avant de faire l'école, je n'étais pas au courant et mes yeux se sont ouverts. Il a été question de puits de réveil qui allaient être débouchés. Et moi, je crois que c'est ce qui va se passer. Mais il faut comprendre c'est quoi ce puits. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on connaît. Il y a des choses qui ont été comme balayées. Il y a un pan de notre histoire qui est sous la poussière. Et je crois qu'il va falloir dépoussiérer tout ça. Et moi, c'est quelque chose là qui commence à me peser de plus en plus. Alors ça va venir. Laissez-moi juste un peu de temps, laissez-moi encore quelques mois. Mais ça va venir. Et je crois que le réveil qu'on va vivre ici, il ne sera pas comme celui qu'on peut imaginer, comme tous ceux qui ont déjà eu lieu. Mais ça va commencer déjà par chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se préparer. On est en train de poser des pierres pour pouvoir le supporter, pour pouvoir le vivre, pour ne pas tomber, pour qu'il n'y ait pas un boisseau tout à coup sans qu'on le voie venir qui se mette sur notre lampe. Seigneur, merci. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te demande encore de donner des révélations dans nos cœurs. Viens encore. Je te demande encore de te mouvoir maintenant. Viens ouvrir nos pensées. Viens débloquer toutes nos compréhensions qui sont encore figées. Je te demande, Saint-Esprit, que cette parole se fasse chair en nous, que nous puissions comprendre le fleuve que tu es en train de faire couler, un fleuve de vie que tu fais couler dans nos entrailles, dans notre âme, dans notre intelligence, pour que nous puissions entrer dans ces choses du ciel. Qu'on comprenne où on est, qui on est, où est-ce que tu nous places, les endroits stratégiques où tu nous places chacun d'entre nous pour participer à ce que tu es en train de préparer. Je crois que tu le prépares ici, mais pas seulement. Merci parce que tu places aussi des personnes à l'extérieur de cette église pour faire des ponts. Je te demande, Seigneur, que nous soyons capables de voir ce que tu es en train de faire, que nous te suivions. Aide-nous à discerner. Donne-nous un esprit de sagesse. Dispose nos cœurs. Dispose notre volonté. Rends-nous capables d'accepter, de nous abandonner à toi. c'est toi qui diriges, c'est toi qui prends les commandes de nos vies. Pour que nous puissions briller avec un maximum de lumière, pour que les rayons s'étendent de la manière la plus puissante possible. Merci Seigneur de donner tes révélations à chacun, que chacun comprenne qu'il a été appelé, justifié pour briller, pour porter de la saveur, que tu veux utiliser chacun dans ta moisson. Chaque vie est importante. Je crois que si une personne ce matin a l'impression qu'elle est insignifiante devant Dieu ou devant les hommes ou même dans l'église, c'est un mensonge. Jésus utilise n'importe qui. Reçois simplement cette conviction du Saint-Esprit que tu es le sel de la terre et la lumière du monde et qu'il t'utilise, qu'il t'a placé là où tu es pour porter du sel, pour porter de la saveur, pour amener la lumière de Dieu. Et des vies vont être restaurées simplement parce qu'ils t'auront côtoyé. Parfois tu seras au courant parce que les gens vont te le dire ou parce que tu auras des échanges avec les personnes, mais peut-être même que tu l'apprendras seulement au ciel. Il y a des gens qui viendront vers toi en te disant, tu sais, je te voyais vivre. Et un jour, quand quelqu'un m'a parlé du Seigneur, j'ai compris que c'est ce que tu portais. Ne négligez pas ce que le Seigneur a déposé en vous. Ne négligez pas votre salut. Dieu vous utilise et il vous remplit et il veut vous combler, que vous soyez épanouis en lui, remplis de sa vie. Jésus, Jésus, gloire et honneur à ton nom. Merci, merci parce que tu es la lumière du monde et que par ta lumière, nous sommes lumière et nous voyons la lumière. Gloire à ton nom puissant, je te demande encore de bénir et de protéger toute cette église et les gens qui nous visitent, tous ceux qui entendent ce message. Merci de mettre ta muraille de feu autour de chacun d'entre nous, autour de cette communauté. Nous sommes sous la puissance de ton sang. C'est toi qui nous gardes, qui nous protège et qui combat pour nous. Et qui nous enseigne et qui nous exhorte et qui nous console. Sainteté à l'Éternel.